Tout lecteur de la Bible trouve dans ces pages cette affirmation fondamentale. Dieu a parlé. Peut-on trop insister sur le fait que le message de la Bible est une communication de Dieu aux hommes? Sans la Bible, comment l'homme aurait-il pu connaître Dieu autrement que par une sorte d'intuition? Comment l'homme aurait-il pu connaître la volonté du Créateur à l'égard de la créature? Comment aurait-il pu expliquer le mystère formidable de l'univers, ainsi que son propre mystère, encore plus troublant? Mais quel accueil a-t-on fait à ce livre? Quel accueil lui réserve-t-on encore? Tout est là. Il y a quelques années, dans un quartier bas de Chicago, un petit garçon jouait à traîner derrière lui un vieux violon au bout d'une ficelle. Un musicien qui passait par là par hasard crut mourir d'émotion en reconnaissant dans ce jouet un authentique Stradivarius. L'attitude de certaines personnes envers la Bible est caractérisée par cette même inconscience. La Bible est souvent là sur l'étagère, entre deux romans. Elle ne sert qu'à décorer l'appartement et à accumuler de la poussière. À l'instar du petit garçon au violon, il ne se doute pas qu'il possède une œuvre unique, un message qui vient d'en haut. Un message qui dit des choses simples, mais profondément vraies et nécessaires, des choses que chaque homme a besoin d'entendre. Car que voyons-nous de l'homme dans la rue? Un masque, une façade, une apparence trompeuse. Suzanne Dare, dans un petit livre intitulé « Portrait de l'homme moderne », dépeint cet homme comme un inquiet, un insatisfait, un esclave, un désorienté, un déséquilibré, un agité, un indifférent, un vainqueur désarmé, un égaré, mais aussi et surtout un appelé. Or, la Bible parle à l'homme réel, à l'homme caché derrière son masque, à cet être vulnérable, si impuissant devant l'incertitude de demain, devant la certitude de la mort, dans un présent si fugitif. Oui, la Bible est une voie et elle est une vie. Loin de nous, cependant, l'idée d'adorer un livre. Ce serait du fétichisme, de la bibliolâtrie. Nous voulons parler d'un message à respecter, message que nul homme n'aurait pu concevoir et dont tout homme a besoin pour vivre avec une espérance plus élevée que celle des animaux. Il y a un texte dans la Bible qui décrit dans un langage imagé et énergique la nature et la puissance de ce message qui nous vient de Dieu. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Vous avez remarqué que plusieurs traits distinguent la parole de Dieu. D'abord, nous la savons vivante. C'est le contraire d'une parole vaine ou morte, parce qu'elle émane d'un Dieu vivant. En opposition au faux Dieu fabriqué par les hommes, elle est elle-même vivante. C'est-à-dire qu'elle ne vieillit pas. Elle est toujours présente. Elle est définitive. Elle est permanente. Toute chair doit faner et périr avec sa gloire, comme l'herbe des champs, dit l'apôtre Pierre. Mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Puis il ajoute, « Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. » La parole est vivante non seulement parce qu'elle procède du Dieu vivant, mais parce qu'elle a la faculté de communiquer la vie. L'apôtre Pierre, que nous venons de citer, rappelle à ses destinataires qu'ils sont nés à une vie nouvelle parce qu'ils ont été en quelque sorte ensemencés par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. On peut donc parler de résurrection spirituelle. En effet, plus que par la mort physique, l'Évangile semble surtout préoccupé par la mort spirituelle de ceux qui vivent dans le péché. C'est pourquoi on entendra Jésus déclarer « en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. » et ceux qui l'auront entendu vivront. Il semble qu'en venant sur terre, le Christ, porte-parole de Dieu, a surtout eu du mal non pas à se faire entendre, mais à se faire écouter. Ce que Dieu disait par Ésaïe le prophète, il le répète par son Christ. « Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. » Mais nous avons aujourd'hui tant d'âmes mortes qui ferment leur cœur à cette parole et à ces promesses. Elle n'attend qu'un signe, qu'une invitation pour féconder, pour régénérer, pour renouveler. « Je n'ai pas honte de l'Évangile », s'exclamait l'apôtre Paul. « C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Le deuxième trait qui caractérise le message de Dieu aux hommes, c'est qu'il est efficace. La parole est vivante et efficace. Ceci nous donne une impression de travail, d'énergie et de persévérance dans le but recherché. La Bible souligne de diverses manières cette puissance et cette activité de la parole. Le prophète Jérémie la compare à un feu dévorant et à un marteau qui brise le roc et toutes les résistances. Nous venons de voir l'image de l'épée à deux tranchants qui pénètre, sonde et analyse notre être jusqu'au plus intime de nos organes et de nos facultés. L'apôtre Jacques la compare à un miroir qui renvoie l'image exacte de notre âme. Elle est aussi la semence de Dieu dans le cœur des hommes, capable de produire des fruits en grand nombre en vue de la moisson à venir. Tout cela traduit l'activité intense et efficace de la parole de Dieu parmi les hommes. Elle sauvera celui qui reçoit ses instructions parce qu'elle le promet. De même, elle poursuivra et condamnera sans trêve le mal sous toutes ses formes parce qu'elle le promet. Cette invincible activité de la parole, Ésaïe l'exprimera dans un langage très vivant. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer des plantes sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ces remarques sur l'efficacité de la parole nous rappellent que notre texte la compare à une épée à deux tranchants, un instrument particulièrement acéré et pénétrant. Plus tranchante encore que le glaive le plus tranchant, la parole de Dieu scrute, sonde et pénètre l'homme tout entier. Toutes les pensées, toutes les intentions, tous les sentiments de son cœur sont connus de Dieu. Et c'est à ce point où, dans le texte de l'Écriture que nous venons de lire, la parole s'identifie avec Dieu qui est le juge de toutes choses et à qui rien n'est caché. Or, quel est le rôle d'un juge ? Il doit siéger pour voir défiler devant lui toutes sortes de cas. Il les pèsera, il les évaluera tous impartialement. Certains mériteront son approbation, mais il devra parfois mettre en garde et souvent condamner. Ainsi, l'homme qui examine les Écritures se trouve en réalité examiné par elles, fouillé, découvert et nu. La parole jugera d'abord les sentiments de cet homme, car l'orientation que nous donnons à notre vie dépend de ce que nous aimons par-dessus tout. Nous avons tous besoin d'aimer. Nous avons tous besoin d'un idéal. Quel sera-t-il ? Quel est-il ? Et c'est là que le juge pose ses conditions qui ressemblent à des ultimatums. L'amour du monde ou l'amour de Dieu, il faut choisir. Nul ne peut servir deux maîtres, a dit Jésus. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Il faut choisir entre l'adhésion au Christ ou la rébellion. Il n'y a pas de terrain neutre. La parole nous contraint à une prise de position définitive. Elle juge aussi ceux qui se complaisent dans une foi passive. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres ? La foi peut-elle le sauver ? Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Envisager sous cet aspect la fonction de la parole qui juge, qui reprend et qui corrige n'est pas du tout agréable aux êtres imparfaits que nous sommes. Elle doit souvent opérer en nous à la manière d'un scalpel de chirurgien. L'opération en elle-même est souvent douloureuse parce qu'elle éprouve l'amour-propre en découvrant nos imperfections et qu'elle soumette à une discipline spirituelle à laquelle nous n'étions pas accoutumés. Mais c'est une opération nécessaire parce que le mal est là et il faut l'extirper pour retrouver pureté et santé. Dans sa lettre au jeune Timothée, l'apôtre Paul insiste sur l'importance vitale de s'attacher, de s'accrocher à la parole, car les temps sont difficiles. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Pour terminer, nous devons souligner un dernier trait essentiel. C'est que si Dieu a parlé aux hommes par l'intermédiaire du Christ, ils auront désormais à rendre compte au souverain juge de leur attitude à l'égard de ce message. Jésus a dit « La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Ici encore, la parole est personnifiée comme désignant Dieu lui-même. Quelle attitude dois-je donc avoir à l'égard de la parole? Quelle doit être ma réponse au message de Dieu? Nous laisserons à l'apôtre Jacques le soin de répondre à ces grandes questions. Et il fournira par là même une forte conclusion à notre étude. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. »